Le texte que nous allons commenter se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, des versets 26 à 29. En voici la lecture. Frères, en Jésus-Christ vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham, et l'héritage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il appartient. Alors c'est un passage, disons, assez connu pour ceux qui sont habitués à lire les épîtres de Paul. Entre parenthèses, on a souvent qualifié Paul de misogyne, mais ce même Paul dit qu'en Christ il n'y a plus homme ni femme, donc il n'y a pas de raison d'être misogyne. Bon, je ne vais pas ici faire tout un laïus sur les préjugés que les gens ont sur Paul en le qualifiant de misogyne. Ça sera peut-être l'objet d'un autre enregistrement, par exemple sur l'Épître aux Colossiens chapitre 3, etc. Ici, le contexte, c'est Paul a fondé l'église de Galates, en Galatie, qui me semble-t-il, si je ne m'abuse, est en Asie mineure. C'est une ancienne colonie, enfin qui est peuplée à majorité de descendants des Gaulois, d'où le nom de Galatie. C'est un peu nos ancêtres, si on veut. Et voilà que Paul se rend compte que sous l'impulsion de certains judéo-chrétiens, des chrétiens d'origine juive qui voulaient aussi qu'on continue à pratiquer la loi de Moïse, donc sous cette influence de ces judéo-chrétiens, il se rend compte que les Galates sont en train d'abandonner la foi chrétienne pour revenir à des rites, ou même pas pour revenir, mais pour adopter des rites de l'Ancien Testament, si vous voulez. Ça me fait penser un petit peu à l'islam par rapport à la foi chrétienne, c'est un petit peu ce que vivent les Galates. Ils commencent par la foi pour terminer par la loi, c'est ce que leur dit Paul au chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Donc ici, Paul va faire une mise au point dans cet épître, c'est pour ça qu'il insiste tellement sur la foi. Et avant de commencer en détail l'analyse de cet épître, je voudrais quand même faire remarquer qu'il faut faire très attention, surtout nous catholiques, nous sommes plus guettés par cette tentation que nos frères protestants. Effectivement, nous croyons que la foi chrétienne, c'est une relation personnelle avec Jésus, enfin nous sommes censés le croire, mais très souvent, nous faisons du rite. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, l'Église est guettée par cette tentation du rite, de la tradition, non pas la tradition guingrantée qui est en fait l'interprétation de la Bible depuis des siècles, mais la tradition que l'on apparente souvent au rituel, eh bien où le latin, ces choses-là, commence à prendre le pas sur ce qu'est le centre de la foi chrétienne, qui est sa relation personnelle à Dieu par Jésus-Christ. Et quand on commence à mettre au centre de notre foi du rituel, des petites habitudes, une morale même, et que cette morale, ce rituel ou le fait d'aller à la messe est déconnecté de la raison réelle pour laquelle nous adoptons telle morale, nous allons à la messe, etc., nous pratiquons tel rituel, eh bien nous tombons dans cette tentation dans laquelle les Galates sont tombés. Donc faisons très attention, n'oublions pas que la foi chrétienne n'est pas d'abord une morale, n'est pas d'abord du latin, de tel rite, de tel je sais pas quoi. Non. Ça, c'est des querelles de clochers. Alors, maintenant, venons-en à l'étude détaillée de cet épître. Frère. Entre parenthèses, Paul commence toujours ses épîtres par frère. N'oublions jamais que les personnes à qui nous parlons, même si c'est pas de la foi, mais à plus forte raison quand nous parlons de la foi, sont d'abord des frères. Donc, il faut les aimer pour bien témoigner. Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Alors, il y a deux façons de comprendre, à la lettre, et avec un regard, disons, très christologique et voire anagogique, c'est-à-dire centré sur la fin dernière, le ciel, eh bien, Jésus-Christ, par rapport à toute autre religion, tiens, entre parenthèses, je ne l'ai pas dit, mais je n'aime pas parler de religion chrétienne, parce que la religion, c'est vrai, ça veut dire relier. Donc effectivement, la foi chrétienne est une religion dans le sens où elle relie l'homme à Dieu et les hommes entre eux. Mais le mot religion est devenu, disons, plombé, notamment avec ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, où on compare les religions et où la foi chrétienne devient une religion parmi tant d'autres. Et ce n'est pas du tout le cas. Et l'originalité de la foi chrétienne, elle se situe dans ce verset que je viens de lire. Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Alors à la lettre, ce que veut dire Paul, c'est pas très compliqué, mais c'est révolutionnaire. Prenez n'importe quelle religion, Dieu reste très transcendant, comme dans l'islam et même le judaïsme. Même si le judaïsme l'a appelé père, c'est un père très lointain. C'est pas le Abba, le nom que Jésus donnait à Dieu et que Paul reprend. Papa, c'est encore le père avec un grand P très majestueux, etc. Et dans l'islam, ils osent même pas appeler Dieu père. Vous voyez? Donc, ce n'est la foi chrétienne, c'est comment dire, non pas d'abord une religion, au sens où elle nous, par des moyens, nous rapproche de Dieu, plus ou moins, mais en Jésus-Christ, elle nous donne l'occasion, la possibilité que l'on n'a qu'à saisir, d'être fils, c'est-à-dire d'avoir une proximité à Dieu. Pas simplement s'approcher plus ou moins, mais être proche. C'est un état, voilà. Donc, plus nous aurons la foi en Jésus-Christ, plus Dieu nous paraîtra un Père. C'est là toute... Jésus-Christ, si vous voulez, c'est l'incarnation, c'est la relation avec Dieu fait homme. Donc, si nous côtoyons Jésus-Christ, nous entrons dans ce processus de relation, qui est tellement vivant que c'est une personne de toute éternité, l'Esprit-Saint. Nous sommes le temple de l'Esprit, dans la mesure où nous avons, comme le dit Paul plus tard, revêtu le Christ, et donc nous sommes entrés dans ce dynamisme de l'esprit, de cette relation filiale avec le Père. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Cette possibilité que nous avons dès maintenant d'avoir une relation filiale avec le Père, une relation personnelle. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle Jésus est venu sur Terre. Il s'est fait cette relation personnelle à Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle fils, est tellement personnelle que c'est une personne Jésus. Elle s'est incarnée pour que nous devenions nous-mêmes partie prenante de cette relation. Voilà toute la foi chrétienne. Est-ce que pour nous, Dieu est un père? Est-ce que pour nous, par exemple, nous parlons à Dieu comme nous parlerions à un père que nous aimons? Abba, papa, la question se pose. Est-ce que nous comptons sur lui pour les moindres détails de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il exauce tout ce qu'on lui demande, mais est-ce que nous comptons sur lui? Est-ce que nous avons foi en lui? Sinon, nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore fils de Dieu. Ensuite, on peut comprendre ce verset avec un regard, disons, plus anthropologique ou moral, c'est-à-dire centré sur la vie quotidienne, voire intérieure. Paul dit, vous êtes, frère, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. La foi, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est le fait de croire dans ce qui n'est pas encore là et d'espérer ce qui viendra, si je cite de mémoire. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons déjà par la foi le ciel, effectivement, dès cette terre, c'est ce que j'ai dit plus ou moins tout à l'heure, cette relation filiale qui va trouver son épanouissement plein et complet dans le ciel. Mais déjà, eh bien, par la foi, nous possédons ce que nous demandons. Quand nous prions pour la conversion d'une personne, si nous sommes fils de Jésus-Christ, nous savons que cette personne est déjà fils de Dieu par la foi, parce que par notre prière, elle va s'ouvrir à Dieu. Par notre coopération libre d'être humain, nous permettons à Dieu d'agir par l'homme pour sauver l'homme. Ainsi, la liberté de l'homme est respectée. Nous prolongeons l'incarnation du Christ. C'est ce que Paul a dit, je crois, dans l'Épître aux Éphésiens, où il dit qu'il complète dans sa chair les souffrances du Christ. Et par la foi, quand nous avons des défauts, quand nous avons encore des choses à corriger dans notre vie, si nous sommes vraiment Jésus-Christ, fils de Dieu, par la foi, nous savons que c'est qu'une question de temps avant que nos défauts se corrigent, qu'il faut le temps pour que justement l'Esprit-Saint travaille en profondeur, pour que tout soit effectivement en profondeur nettoyée avec notre consentement dans les moindres recoins de notre inconscient. Ça va jusque-là, ce verset. Alors, continuons. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alors, le baptême, c'est plonger. Nous cessons, nous sommes morts, comme le dit Paul dans l'épître aux Romains, je crois au chapitre 5. Nous sommes morts avec le Christ sur la croix en étant plongés dans le baptême pour, en ressortant du baptême, revivre en lui, être ressuscité en lui. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Revêtir le Christ, c'est justement ne plus regarder avec ses yeux, mais regarder avec les yeux de la foi. Plutôt que d'agir par nous-mêmes, des fois par la force, dans les disputes, etc., le regard de la foi, revêtir le Christ, c'est d'agir plus en profondeur, de renoncer à certaines choses, disons à une violence ou à une justice parfois légitime, pour être patient, prendre la personne où elle en est. Voyez, pareil pour nous, continuer nos efforts malgré les échecs, sachant que ces efforts ne sont qu'un appui, ne sont qu'une aide à la foi, car les efforts sans la foi, ce sont les œuvres sans la foi. Donc, se justifier par les œuvres, il n'y a rien de plus déprimant, c'est de la loi dans toute son excellence. Tandis que si nos efforts, nos actes d'amour sont nourris déjà par la foi et trouvent leur aboutissement dans la prière et la foi, alors la patience est là et l'espérance se fait jour, car nous savons que ce n'est qu'une question de temps avant que nos frères ou que nous-mêmes nous soyons complètement ouverts et que tout soit revêtu du Christ. Les moindres recoins de notre vie, telle ou telle personne pour qui nous prions, notre pays, ce monde. Et Paul continue, les conséquences de revêtir le Christ, c'est qu'il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus homme et femme, car tous vous n'êtes faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Bien, nous avons vraiment une explicitation de la parole de Jésus dans Matthieu 7, hein, où il nous dit de ne pas juger nos frères, hein, de ne pas essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère avant d'enlever la poutre qui est dans le nôtre. Effectivement, si nous avons cette foi, si nous avons revêtu le Christ, si nous avons la foi, nous savons que ces gens sur qui nous avons des préjugés parfois, ou qui sont mis dans une catégorie, ils ne croient pas, ils sont ceci, ils sont cela, ou alors nous avons tel ou tel défaut, à un tel point que nous pensons que ça fait partie de notre personnalité, même si nous voulons nous en débarrasser. Mais si nous avons revêtu le Christ, déjà potentiellement, eh bien ces défauts n'existent plus, ou telle personne, eh bien, regardons-la comme un frère qui n'a pas encore rencontré le Christ, mais qui, en le rencontrant, eh bien, justement, va quitter tous ses vieux vêtements, ses vieux haillons, ses défauts qui parfois nous pèsent, pour revêtir lui-même le Christ. Donc, ça veut dire que notre comportement est totalement changé vis-à-vis de ces personnes. Car plutôt que d'être cassant, en colère, plein de préjugés, eh bien, nous devons être patients et aimants. Et tout ça est nourri par la foi. Voyez, il faut jamais opposer la foi et les œuvres, parce que nous aimerons à la mesure de notre foi. Car effectivement, si comme Paul, nous ne voyons à chaque homme que des gens potentiellement revêtus du Christ, alors nous ne pourrons plus être que patients devant leurs défauts, sachant que ce n'est qu'une carapace qui finira par céder à force d'amour que nous avons pour eux et de prière que nous avons pour eux. Voilà. Donc voilà comment, mes frères, eh bien, nous pouvons vraiment aimer en amour, en acte et en vérité, comme le dit Jean dans sa première épître. Si nous voulons aimer en acte et en vérité, il faut nourrir sa foi constamment par la lecture de la parole, qui nous rappelle effectivement encore et encore que ce que nous voyons dans le monde visible n'est qu'une pâle imitation, comme le dit l'épître aux Hébreux au chapitre 8, du vrai sanctuaire. Ces gens que nous voyons avec leurs défauts, ce n'est pas leur vraie personnalité. Il faut vraiment prier pour eux et les aimer, sachant que tout ce qui fait défaut chez eux, tout ce qui peut nous irriter, n'est que passager, à la mesure de notre prière et notre amour pour eux. Ce que dit Jésus, c'est à la mesure que vous donnerez qu'il vous sera donné. Si nous prions peu et nous jugeons beaucoup, eh bien les personnes nous hériteront d'autant plus. Nous hériteront d'autant plus, effectivement, parce que nous ne sommes pas dans le bon regard. Si nous prions et les aimons, eh bien, ces personnes nous irriteront moins, car nous aurons un regard différent, et ces personnes finiront par changer à la mesure de notre prière et de notre amour pour eux. Entre parenthèses, il n'y a plus bon ni juif ni païen, etc. Donc, c'est pour ça, vous savez, moi, effectivement, pour moi, toutes les religions ne se valent pas, bien loin de là. Et la foi chrétienne est la voie, comme disaient les disciples dans les Actes des Apôtres. Il n'y en a pas d'autre. Mais quand je vois un musulman, etc., ou un juif, ou qu'une autre religion, je ne le catégorise pas, ou du moins j'essaye, priant pour lui et l'aimant, et je ne cherche pas forcément à lui parler, surtout pas d'ailleurs, je dirais, de religion, mais à vivre avec lui à ses côtés tout en l'aimant, mais en priant aussi pour lui pour qu'il soit revêtu du Christ. Voyez que sa personnalité se trouve enrichie et sa foi déjà embryonnaire, nourrie par cette religion, trouve son plein accomplissement dans le Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme, c'est pareil, hein, que de misogynie. Que moi, ça me fait toujours mal quand je vois que souvent les hommes et les femmes sont en train de s'invectiver les uns les autres. Nous sommes complémentaires, bien sûr. Mais il faut d'abord mettre le Christ avant tout. Dans notre couple, par exemple, dans nos couples, si le Christ est au centre, eh bien, vous verrez, le couple sera différent, parce que en vérité, nous aimerons notre femme comme une femme et elle nous aimera comme un homme. Alors qu'il n'y a rien de pire que cette espèce de concurrence entre hommes et femmes où chacun veut prendre la place de l'autre. C'est d'ailleurs un peu le sens des passages que l'on dit misogyne chez Paul, ou avec son époque. Tout simplement, ce qu'il dit, c'est remettre chacun dans son rôle, parce que si l'homme joue pleinement son rôle d'homme et la femme pleinement son rôle de femme, il n'y a plus de supériorité et d'infériorité, il n'y a plus que complémentarité. C'est ça le sens profond des épîtres de Paul. Donc il n'y a absolument pas de misogynie quand on sait lire la parole de Dieu avec un peu d'intelligence. Alors, ici, continuons. Oui, alors, avant, donc c'est aussi une vision du ciel, parce que ce qui est beau, c'est qu'au ciel, eh bien, tous ces préjugés, tout ce qui peut faire que nous nous sentons des fois jugés, tout ça, nous serons aimés tels que nous sommes dans notre riche personnalité, et nous serons débarrassés de tout ce qui salit notre personnalité, tous nos défauts. Car je vous le dis, les défauts ne sont pas, ni même les péchés mignons, quelle horreur cette expression, ne sont pas partie prenante de notre personnalité. Bien loin de là. Bien loin de là. Ce sont des choses, le péché, qui défigure les défauts, si vous préférez, qui défigure notre personnalité. Et le Christ, dès cette vie, il fait de nous, hein, si vous voulez, dans notre vie intérieure, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, etc., ni homme ni femme. Nos défauts, le Christ les travaille, il faut en avoir conscience. Donc bien loin d'être découragé devant nos défauts, devant les pièges dans lesquels nous tombons toujours et toujours, ayons toujours la foi, sachant que le Christ travaille lentement et sûrement pour nous purifier. Purification qui trouvera son aboutissement total dans le ciel, où nous aurons notre personnalité unique, originale par rapport aux autres. Car si nous sommes dans le Christ, nous avons cette relation de fils à père. Donc il ne s'agit pas d'être fondu dans la divinité, mais vient de communier. Et pour communier au Père dans le Fils, il faut avoir sa personnalité. Autrement, il n'y a pas de communion. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. Nous serons ce que nous sommes, pleinement et entier et unique, mais débarrassés de ce qui nous défigure. Et ce travail de purification commence dès maintenant. Il faut en avoir la foi et toujours prier pour que le Seigneur nous rende toujours plus beau, plus parfait, plus saint. C'est le sens de saint, séparé du péché, hein. Et alors, Paul continue, « Et vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham. » Enfin, pardon, il dit, « Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham, et l'héritage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il appartient. » Dans l'Épître aux Galates, avant, effectivement, Paul montre que Abraham, être héritier d'Abraham, ce n'est pas d'abord une question de race, mais si on lit le texte de la Genèse en profondeur, c'est d'avoir la foi. Et donc, si nous avons la foi, c'est le propre de la foi chrétienne, justement, c'est qu'avec le Christ, la relation à Dieu, ce n'est pas une question de rituel et d'obéissance d'abord, mais une question de confiance, c'est la foi. Après vient l'obéissance. Eh bien, si nous avons cette relation de confiance à Dieu, donc si nous appartenons au Christ, car c'est en lui que cette relation de confiance trouve son aboutissement, nous sommes vraiment de la descendance d'Abraham. Et alors on comprend très bien qu'avec la foi, eh bien, tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire d'être une bénédiction pour les autres, va s'accomplir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vraiment nous voyons avec les yeux du Christ, si nous ne jugeons pas, si nous prenons l'amour et la prière comme norme, au lieu de juger nos frères, au lieu de nous juger nous-mêmes, eh bien, nous avons foi et confiance dans le travail patient mais efficace de la grâce, et alors nous devenons une bénédiction pour nous-mêmes, parce que au lieu de nous décourager de baisser les bras par notre prière et nos efforts qui se trouvent nourris et qui appuient à leur tour la prière, eh bien nous transformons lentement mais sûrement et nous faisons pareil pour nos frères pour qui nous intercédons et pour qui notre amour vient comme un appui et est aussi nourri par notre prière. Notre amour pour nos frères trouve sa raison d'être dans le fait que nous savons que c'est la prière qui est première et que cet amour ne fait que prolonger la prière pour nos frères. Et donc, l'exaucement viendra un jour ou l'autre. Et si c'est pas en ce monde, c'est dans l'autre. Car ça compte, effectivement, nos prières, nos gestes de charité peuvent trouver leur accomplissement jusque dans l'au-delà. Eh bien, dans ce cas-là, nous venons vraiment une bénédiction. Et nous sommes bien de la descendance d'Abraham. Alors, ce que Dieu a promis, hein, il a promis que nous serons en Abraham une bénédiction, une source de salut pour les autres, eh bien, c'est vrai. C'est vrai à la condition que nous ayons bien ces gestes, ce regard de foi hein, le sens tropologique nous indique, c'est-à-dire centré sur cette vie intérieure ou sur la vie intérieure des autres, c'est-à-dire par notre prière, etc. Et ça va trouver un aboutissement jusque dans le sens synagogique, c'est-à-dire que jusque dans la vie éternelle. Nous pouvons amener des gens au salut, tout simplement nous faisant canal du Père, justement, qui agit par son Fils Jésus. C'est par cette foi, cette prière, cet amour que nous permettrons à l'Esprit Saint de venir transformer ces gens, même si l'aboutissement plein entier parfois se trouvera dans l'au-delà. Vous voyez, ce sens de l'Écriture, il faut toujours avoir ce regard de foi sur les Écritures et ce regard centré sur la vie éternelle, sans oublier que le centre des Écritures, c'est Jésus-Christ. Alors je vous propose de prier un petit peu pour résumer tout ça. Seigneur, ô Père, approche-nous toujours davantage de ton Fils. Oui, Jésus, en toi, nous voulons vraiment que tu... Oui, en toi, nourris notre foi, augmente en nous la foi, pour que en toi, nous soyons proches du Père, comme des enfants. Oui, Seigneur, nous voulons, dès cette vie, avoir une relation filiale avec notre Père. Et Seigneur, vraiment, change notre regard. Donne-nous un regard de foi sur les défauts des autres, sur nos propres défauts, que bien loin de nous décourager ou de juger, eh bien, nous nous revêtions, Jésus, de tes armes, c'est-à-dire l'amour et la croix, c'est-à-dire, c'est ce que tu nous demandes, de prendre sur nous notre croix, de savoir renoncer à l'impatience et au jugement, pour faire preuve de patience et d'amour envers nos frères et nous-mêmes, et le tout nourri par la prière. Seigneur, vraiment, donne-nous d'adopter cette vue, de nous revêtir de toi. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Fin de l'enregistrement. Free audio post-production by Alphonic.com.